Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diversité FM dans Cinémag, où je suis encore en présence de Maxime Munier. Bonjour Mac.
Bonjour Mag.
Et où nous allons faire notre deuxième partie d'émission sur les extraterrestres. Donc j'espère que vous avez tous écouté la première partie. Et voilà, pour être prêts pour notre deuxième. Alors nous avions abordé un petit peu la problématique des aliens, enfin des extraterrestres à l'extérieur de la planète avec les humains qui cohabitent les problématiques du vivre ensemble, toutes les sociétés extraterrestres.
C'est peut-être bien de le préciser, on va parler des extraterrestres au cinéma, parce que j'ai pas la prétention de régler les questions d'arrivée d'extraterrestres pour de vrai sur notre planète.
Je pense même que si. Le titre de l'émission est quand même assez clair, on est dans Cinémag.
Je sais bien, mais c'était important de recontextualiser. Je ne suis pas
complotiste.
Non. ni expert scientifique en la matière, moi je suis juste un amateur éclairé, voilà, de
oui,
cinéma de genre.
Je rappelle que Maxime est directeur du cinéma Agnès Varda à Joigny.
Eh ben oui, c'est vrai.
Et que il organise les lundis fantastiques avec justement la projection de d'œuvres du cinéma de genre.
Mais oui.
Tu peux peut-être juste le rappeler.
Oui, un lundi par mois, le dernier lundi du mois, c'est programmation de films de genre au cinéma Agnès Varda de Joigny, et notamment la fin du mois de juin, le 25 juin, on aura une programmation, enfin on reprogramme Mars Attacks de Tim Burton dans une version restaurée d'ailleurs, donc il faut venir voir ça.
Ça fait toujours plaisir de voir sur grand écran quand on n'a pas pu les voir.
Ouais, même si vous les connaissez par cœur, je sais là par petite expérience que même des trucs que j'ai vus des dizaines de fois, juste les voir sur grand écran une fois, c'est une véritable redécouverte.
Oui. Alors, donc, nous allons parler cette fois des extraterrestres qui arrivent sur Terre, qui viennent. Alors, clairement, hein, on a quand même plus de figures un peu négatives, belliqueuses. Voilà, c'est vraiment la peur de l'envahisseur, les extraterrestres qui viennent pour dominer, conquérir la Terre ou exterminer la race humaine. Mais on verra qu'il y a quand même des figures d'aliens sympas aussi. Hein, et le thème.
Il y en a
donc,
quelques-unes, ouais.
Tu parlais du thème du premier contact beaucoup dans la première émission, et
oui. Voilà,
ça c'est vrai que c'est un thème majeur du cinéma.
Ouais, parce que la question du premier contact avec une civilisation extraterrestre dépend aussi de ce théorème finalement concernant les extraterrestres, qui sont qu'une race suffisamment évoluée technologiquement et aussi philosophiquement parlant, une race suffisamment évoluée pour maîtriser le voyage intersidéral et au final atteindre notre planète, ne peut pas le faire sans raison vraiment valable. Et on théorise beaucoup le fait que une race suffisamment évoluée pour rentrer en contact avec nous ne peut être que suffisamment évoluée en fait pour ne venir qu'en paix finalement.
Oui.
Ce que évidemment le cinéma d'action notamment contredit un petit peu, puisqu'on est beaucoup plus confronté à des aliens effectivement qui essayent d'envahir la Terre.
Finalement, c'est une problématique très humaine, parce que l'histoire de la colonisation, des
bien
guerres, en fait, c'est très humain. C'est projeter des problématiques humaines et des défauts humains sur des aliens.
Ouais, c'est ce qu'on disait dans la présente émission, c'est que, encore une fois, l'extraterrestre n'est qu'un prétexte pour parler d'autre chose, comme tu le disais extrêmement bien. On projette aussi des choses sur la question de la colonisation. C'est évident avec Avatar d'ailleurs, parce que c'est complètement l'inverse. Du coup, c'est clairement une question de colonisation humaine,
ouais,
sur une autre peuplade. Mais oui, c'est une projection aussi de l'histoire, rapportée en fait avec un élément science-fictionnel qui permet encore une fois de pousser les curseurs au maximum.
Alors justement, on avait parlé donc des films des années 50 hein, qui avaient commencé à propulser un peu le genre au devant de la scène. On avait dit que vers les années 70, c'est là où ça devenait un peu sérieux, enfin c'était plus pris au sérieux parce que les effets spéciaux commençaient à être intéressants, puis on avait vraiment Star Trek, Star Wars qui étaient des références.
Bah, le public suit aussi, donc forcément quand il y a de l'argent, ça peut devenir un peu plus sérieux. Ouais.
Voilà, et ça se développe, oui, malheureusement c'est vrai que l'argent est souvent au cœur des productions, ou non.
Bah, le cinéma reste à la fois un art et une industrie, et forcément de toute façon un art qui coûte très 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 cher et qui ne peut se passer effectivement de cette problématique financière. Donc lorsque vous voulez que la science-fiction devienne pertinente et crédible, elle a besoin d'argent et elle a besoin aussi de s'attirer un large public.
On va parler justement de ces fameux envahisseurs. Dans les années 80-90, la mode des blockbusters, justement où tout explose, c'est un peu Independence Day qui a quand même lancé la mode, enfin il me semble, hein, donc de Emmerich en 96. Alors on peut citer aussi tout ce qui va suivre, enfin Signe, il y a les Spielberg aussi, La Guerre des Mondes, ou Pacific Rim de Guillermo del Toro avec ses créatures géantes qui sortent, alors on sait d'où, hein, c'est un peu des dimensions parallèles.
Oui, c'est une autre dimension, mais tu vois, le Pacific Rim se sert en fait de l'image du kaiju. Hein, le ouais. Kaiju, c'est ces créatures issues du folklore pop japonais, parce que c'est un folklore relativement moderne quand même.
Comme Godzilla, un
comme
peu,
Godzilla, ouais. Oui, c'est Godzilla l'un des premiers. Godzilla, qui n'est pas à proprement parler un extraterrestre, mais c'est un petit peu la même chose que pour les extraterrestres, c'est-à-dire qu'on parle à travers de Godzilla d'autres choses. On parle de la peur du nucléaire, notamment chez les Japonais avec Godzilla. C'est une espèce de Godzilla qui incarne une espèce de force de la nature complètement incontrôlable, qui est effectivement une façon d'incarner la peur de la destruction nucléaire. Voilà, donc oui, c'est pas complètement... c'est logique de parler, oui, de Pacific Rim, ouais, où finalement ces créatures viennent d'une autre dimension, mais c'est un petit peu la même chose. On peut les considérer comme des extraterrestres,
oui,
à proprement parler.
Oui, il me semble que c'est quand même considéré un peu comme des extraterrestres. Mais c'est vrai que parfois les frontières un peu sont ténues. J'ai revu là récemment The Mist, où il y a des créatures comme ça qui viennent, qui sont apportées par la brume, on sait pas trop d'où. Et voilà. Donc on sait pas, ça ressemble un peu à des créatures extraterrestres avec le motif des tentacules, etc. Mais a priori ce serait encore une autre dimension. Donc souvent les thèmes peuvent se chevaucher.
Le film d'extraterrestres, c'est pas un genre à part, mais je trouve toujours intéressant de voir où est la frontière entre science-fiction et fantasy en fait dans ces choses-là. Comme je le disais dans la première émission, moi je me refuse à croire que on soit vraiment les seuls dans l'univers. Donc j'aurais considéré qu'un extraterrestre n'est pas un élément de fantasy, c'est peut-être plus un élément de science-fiction dans la mesure où on n'est pas encore, ça nous est encore jamais arrivé de les rencontrer véritablement, mais je suis à peu près persuadé qu'ils existent, à contrario d'un univers de fantasy où là on sait qu'il y a un élément fictionnel total.
Oui, c'est le merveilleux.
Voilà. Voilà.
Et alors justement pour reparler un petit peu de Independence Day, les différents guerres des mondes, etc. Dans les années 80-90, quand même, c'est un peu la mode du bloc. Blockbuster patriotique, quoi. Et puis c'est tout le temps les États-Unis qui sont attaqués, donc les Américains, les humains contre.
Donc là, pareil, hein, j'ai pas la prétention d'avoir une culture de l'histoire du cinéma assez forte pour être légitime de parler de tout ça, mais on est dans les années 80. Dans les années 80-90, on est dans le réganisme et dans cette volonté, effectivement, de montrer l'Amérique surpuissante avec souvent un héros testostéroné qui sauve un petit peu tout le monde, ou l'Américain qui va sauver tout le monde.
La Terre.
On est dans les conséquences psychologiques de l'après-Vietnam, en fait, dans les années 80. L'Amérique a besoin de se rassurer sur ses capacités à dominer le monde. Forcément, au niveau de la science-fiction, ça se traduit par les extraterrestres qui généralement débarquent d'abord aux États-Unis. C'est un petit peu... Ils n'ont que cette carte-là, visiblement.
Le contre-exemple, c'est Carpenter avec The Thing, où justement, c'est l'Antarctique.
C'est une équipe américaine,
mais
quand même.
Mais c'est une équipe américaine. Au début, il y a les Norvégiens,
oui,
mais
c'est vrai.
Ils font pas long feu.
C'est l'Antarctique, ouais, c'est l'Antarctique. Ouais. Mais ouais, il y a ce besoin. Et pareil, je le disais dans la première émission, mais l'extraterrestre cherche cette volonté de remotiver le patriotisme américain et de faire des États-Unis le sauveur du monde. Quoi de mieux pour sauver le monde que de s'opposer à une menace qui vient qui ne vient pas du reste du monde, qui vient d'outre-monde, quoi. Donc c'est effectivement ce que traduit un film qui est effectivement l'apothéose de tout ça, qui est Independence Day. On parlait de Mars Attacks tout à l'heure, du coup c'est rigolo parce que Mars Attacks et Independence Day, c'est une production qui a lieu en même temps, c'est deux studios concurrents qui sont sur deux projets qui racontent plus ou moins la même chose dans leur pitch de base, c'est-à-dire des extraterrestres qui envahissent la Terre et il y a un gars malin aux États-Unis qui va réussir à sauver tout le monde. Effectivement, il y a une approche d'un côté ultra patriotique, ultra
sérieuse, enfin ultra premier degré,
paradoxalement, et pas réalisé par un Américain d'ailleurs, parce que Roland Emmerich n'est pas américain, il est européen, il est allemand, Roland Emmerich. Et de l'autre côté, vous avez le film de Tim Burton où les Américains sont des confinis, il y a pas vraiment.
Là, on est dans la parodie.
On est dans la parodie totale. Le président est complètement aux fraises, alors que dans Independence Day, le président c'est lui qui tire le dernier missile qui va faire péter la soucoupe. Enfin, on est dans deux approches totalement différentes. Je vous le donne en mille. Hein. Mars Attacks sort à peu près au même moment que Independence Day, à quelques mois d'écart. Independence Day va faire un carton aux États-Unis. Mars Attacks va se gaufrer totalement au box-office pour se rattraper d'ailleurs sur le marché européen. D'ailleurs. Mars Attacks a beaucoup plus marché chez nous d'ailleurs qu'aux États-Unis, où il a été littéralement écrabouillé par Independence Day. Et ce qui est normal, au milieu des années 90, Roland Emmerich savait cocher toutes les cases. Ouais. Peut-être le fait qu'il ne soit pas américain d'ailleurs, qui lui permettait d'avoir cette lecture un peu externe de qu'est-ce qui peut plaire. Il a un peu synthétisé ce qu'il avait reçu justement du cinéma d'action des années 80 pour le traduire dans Independence Day, que je trouve absolument génial, mais c'est vrai que c'est un nanar à 100 millions, quoi. C'est...
Mmh. Oui, mais il y a eu des suites en plus, parce que c'est ça, c'est qu'à chaque fois, dès que ça marche, c'est la pompe à fric. Et on fait des suites.
Alors en plus la suite d'Independence Day arrive vraiment au moment où on envisage les suites dans les années 2010 comme des bonbons de nostalgie, quoi. C'est-à-dire que on a besoin, pour rassurer le public et les actionnaires des studios, de raccrocher des franchises ultra célèbres. 2015 c'est Star Wars 7, l'année suivante c'est Independence Day numéro 2. On se raccroche à des grosses licences sans forcément d'attrait d'intérêt artistique particulier. Moi, Independence Day Résurgence, je crois, s'appelle cette suite de 2016. Cela dit, il est très fun, il est très con.
Je l'ai même pas vu. Je me suis arrêté juste à celui d'origine.
Eh ben, écoute, il a été relativement mal reçu parce que les gens le trouvaient particulièrement stupide. Moi, je le trouve pas moins stupide que le film d'origine, mais vas-y, ça en fait une qualité. Moi, j'ai passé un très bon moment là-dessus. Après, oui, il s'est tombé dans la suite un peu bête et mercantile.
Justement, pour revenir un peu sur Carpenter. Tout à l'heure dont je parlais avec The Thing, qui je pense avait été un succès, non? Je sais plus ça.
Relativement si par rapport à la carrière de Carpenter, ça reste pas non plus, ça reste un film de genre, quoi. Oui. Ça reste quand même une niche.
Mais qui était quand même un peu peut-être plus accessible que d'autres.
Que ses autres films, probablement.
Alors, c'était 82, et j'ai trouvé aussi, alors que je n'ai pas vu, mais They Live. Enfin, alors le titre a été traduit.
Invasion
en France,
Los Angeles.
Voilà,
ouais,
mais c'est horrible cette traduction. et là justement Carpenter, lui, il va prendre le contre-pied là, de ce patriotisme et de ce... c'est un peu un anticapitaliste. A priori dans Zélif c'était une classe dirigeante qui serait des extraterrestres en fait, cachés, dissimulés, et qui enjoindrait à la consommation, à la surconsommation.
Carpenter est pas un
suppôt du capitalisme.
Non, pas vraiment. Non, ouais, on peut pas dire ça. Ouais, il a toujours été en marge du système hollywoodien, hein, d'ailleurs. Et c'est pareil. Il est pas américain d'ailleurs aussi, Carpenter. Hein, il est canadien. Ça a son importance du coup quand on lit un petit peu sa carrière, voilà. Mais bon, ça reste un cinéma de genre quand même très. Même si The Thing est maintenant un film culte, ça va pas avoir les entrées d'un Alien ou d'un Star Wars, quoi. Tu vois.
Mais les effets spéciaux étaient quand même bien faits. Hein,
les effets spéciaux étaient pas mal. Ouais,
c'est encore un peu horrifique, dégoûtant.
C'est du film
Tippets,
plus. Ouais. Non, c'est très chouette. C'est très chouette, mais pareil, pour le coup, ça a un petit peu vieilli. Mais en termes de thématique, par contre, ça, c'est toujours aussi génial, The Thing. Ouais. Et la suite remake, qui date du début des années 2010, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de suites et de remakes qui, des fois, avaient juste un intérêt mercantile, trouve ce remake de 2010 plutôt réussi.
Alors, je l'ai pas vu, celui-ci, mais ouais, d'accord.
Bah, si tu veux, c'est un remake qui, en plus, prend le pari de faire préquel au premier film. Tu parlais des Norvégiens, et en fait, ça se passe sur la base des Norvégiens.
D'accord.
La suite. Et en fait, le film se termine sur le début de The Thing, sur le pardon, sur les débuts de The Thing de Carpenter. Et c'est plutôt réussi.
Ah, ouais.
Ils ont bien compris, je crois, l'esprit du premier.
Justement, c'est vraiment le thème de la créature qui prend l'apparence des humains pour mieux les infiltrer. Et alors ça, c'est une des thématiques phares dans le cinéma de genre.
Oui, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que les extraterrestres nous ont pas déjà contactés en fait depuis très longtemps, et certains auraient déjà soit pris contact avec nous, soit infiltré nos sphères politiques et sociales. Et c'est rigolo comme à penser comme truc.
C'est très complotiste, encore une
fois. C'est très complotiste, ouais. On parlait de ça avant même de parler de complotisme, mais ouais, c'est assez rigolo. Et le complotisme, surtout, s'est tourné sur la manière que pouvaient avoir les gouvernements du monde à nous cacher en fait que ces contacts auraient déjà eu lieu. Il y a beaucoup de films en fait qui se basent sur ce truc-là, où finalement il faut pas qu'on annonce à la population qu'on a pris contact avec les extraterrestres. Tout Stargate se passe, même la série se passe avec ces questionnements-là. Le programme Porte des Étoiles est complètement inconnu du public parce que ça pourrait créer une panique, parce que voilà. Effectivement, l'événement réel de tout ça, c'est le supposé incident de Roswell qui nourrit toutes les sphères complotistes et le cinéma depuis un peu plus de 70 ans. Tout le film Men in Black d'ailleurs fonctionne sur ce pitch-là, quoi.
Et beaucoup. Et justement, pour citer, alors je crois qu'on en avait parlé au tout début dans l'introduction, mais il y a quand même une référence, c'est l'invasion des profanateurs, d'après le roman
une infâme traduction française aussi, parce que ça n'a rien à voir avec des profanateurs.
Body Snatchers, oui, c'est vrai.
Body Snatchers, voilà, mais ça n'a rien à voir avec des profanateurs de sépulture.
Oui, en effet, les traducteurs, on se demande pourquoi, parfois.
Bah là, surtout, oui, que ça n'a aucun rapport. Quoi.
Oui, bah oui, puisque ce sont des plantes extraterrestres qui remplacent peu à peu les habitants d'une ville. Et alors là, il y a eu plein de remakes de ce...
Oui, entre les remakes officiels et les remakes officieux.
Et les relectures un peu réécritures, notamment The Faculty de Robert Rodriguez en 98. Alors que moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu le teen movie de SF, mais qui est un petit peu... Ah, un peu parodique aussi sur les bords.
Oui,
qui se prend
pas
totalement au sérieux.
Ouais. Il y avait ce côté-là où finalement, on peut relire l'invasion des profanateurs de sépultures sous l'angle de plein de styles. Effectivement, ouais, ce style un petit peu teen qui était dans The Faculty ou The Leaves, qui est aussi une réinterprétation du même film. Hein.
Non, puis The Faculty avec quand même Elijah Wood en héros.
Ah oui, c'est vrai,
avant Le Seigneur des Anneaux.
Josh Hartnett aussi,
oui,
qui vend de la drogue.
Avec ses, exactement, avec ses stylos.
C'est la solution, non?
Mais justement, c'est génial. Et il y a toujours la scène, tu sais, du test pour voir, mais comme dans.
Comme dans The Thing. The Thing est aussi l'une des meilleures réadaptations de Body Snatchers, de toute façon. Ça reste dans la même thématique.
Je voulais passer un petit extrait de The Faculty, justement.
Il se passe des trucs bizarres au lycée.
Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes.
Vous croyez que des extraterrestres ont envahi notre école? Vous avez fumé la moquette, quoi?
Ils ont envahi notre lycée en un jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir.
C'est un parasite. Il se trouve un hôte et il s'y fixe. Et ensuite, il le contrôle.
Oh merde! C'est maintenant qu'il faut se battre.
Dans tous The Faculty, de toute façon, c'est que encore une fois, on se sert des extraterrestres pour parler complètement d'autre chose, quoi. Ce sentiment que quand on est adolescent, que finalement les profs et les adultes
ne nous comprennent pas,
et que ce soit des extraterrestres ou pas, en fait, c'est un petit peu la même chose, quoi. Je dirais, pourquoi pas des extraterrestres, mais il y a ce côté, finalement, c'est de ça dont on parle dans The Faculty aussi, donc.
Et l'extraterrestre, alors je vais peut-être pas spoiler totalement, mais.
Il y a le droit.
Oui, on peut.
97, il y a. On a le droit.
Mais qui s'était justement un peu greffé à ce petit groupe, qui, d'ailleurs, on a vraiment des gens très différents. Il y a celui qui est un petit peu le souffre-douleur. joué par Elijah Wood. On a le dealer.
Ouais, le mec cool.
Le mec cool. On a quand même, on a la pom-pom girl.
Dont la mère n'est pas là, tu vois. Voilà. C'est sur un peu les mêmes
Le quarterback, mais en fait, qui en a marre qu'on le voit seulement comme un sportif. Mm-hmm. Et puis, je sais plus, pareil, le vilain petit canard, une fille qui est un peu mise de côté, la gothique. Donc, c'est un peu ça. C'est des extraterrestres par rapport au groupe d'ados.
C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu pourrais enlever l'aspect science-fictionnel et avoir un film qui raconte à peu près la même chose, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils se battraient pas contre des extraterrestres, mais ils se battraient contre des adultes, en fait. Il y a toujours ce côté où, finalement, tu pourrais enlever l'élément science-fictionnel et avoir une histoire qui est à peu près similaire. Et encore une fois, les extraterrestres permettent de monter les curseurs au maximum pour nous faire adhérer aussi au truc, parce que sinon c'est pas très intéressant. Il y a pas
mais
les aliens.
Le discours aussi là de l'alien dans The Faculty, c'est de dire nous allons vous dominer pour commencer un monde meilleur, enfin faire un monde meilleur parce ouais. que où il y aurait ce serait sans haine, sans passion, enfin.
Ouais, c'est un truc un petit peu commun qu'on retrouve souvent dans les histoires d'invasion extraterrestre. Il y a un ennemi, enfin il y a un antagoniste, justement on en a aussi parlé dans la première partie de l'émission, un des antagonismes principaux de Star Trek, notamment de la série Nouvelle Génération, qui s'appelle enfin l'antagoniste s'appelle les Borg. Les Borg sont une race de... à la base c'est une race biomécanique en fait, qui utilise les implants robotiques et assimile en fait des espèces partout dans la galaxie et les intègre à une espèce de collectif. Ils ont un esprit de ruche, ils ont un esprit unitaire en fait, et ils présentent ça comme étant la perfection absolue.
Société parfaite.
Voilà, mais sans individualité, voilà, ça pousse en fait le curseur jusqu'au bout de, bah oui, pour créer une société parfaite où il n'y a ni haine, ni peur, ni machin, il faudrait qu'on soit tous reliés dans une espèce d'esprit collectif et commun. Bah ça se traduit aussi par l'annihilation des autres espèces, quoi, donc c'est un peu...
Mais c'est un peu sur le modèle tout le temps de la ruche ou de la fourmilière,
souvent,
pour se débarrasser de tous les extraterrestres, faut tuer la mère, la reine.
Faut tuer la reine, Il y a deux choses, c'est que le premier, ces éléments d'extraterrestres présentés avec un esprit de ruche permettent aussi, quand ça se traduit dans le cinéma américain, permettent de mettre en valeur l'individualisme et la liberté à l'américaine. Effectivement, ce qui représente le pire danger pour l'Amérique libertaire, c'est les esprits de ruche, c'est les esprits...
Le communisme.
Ça reste ça. L'ennemi dans Independence Day, c'est aussi une espèce de... Enfin, ce sont des extraterrestres qui vivent en esprit de ruche et qui synchronise, enfin voilà, il y a tout un truc comme ça. Et la deuxième chose, c'est que ce côté, si on élimine la tête, on les élimine tous, ça permet aussi, c'est aussi une facilité scénaristique qui est bien pratique.
Oui.
C'est l'effet vaisseau mère de Star Wars épisode 1. Si tu fais péter le vaisseau mère, t'as tous les robots qui s'arrêtent en même temps, quoi.
C'est ça, on le revoit dans plein de choses.
On le revoit dans plein de choses, ouais, c'est terminé, quoi.
Bon, c'est un peu lassant, peut-être.
C'est une grosse facilité scénaristique, c'est un gros trope de scénariste qui est facile à mettre en place, et effectivement il y a beaucoup d'antagonistes chez les extraterrestres qui, fonctionnant en esprit de ruche, fonctionnent comme ça. Je parlais de World Invasion Battle Los Angeles, ça fonctionne aussi comme ça. Il y a toujours un moment où on dit, ah bah oui, il y a l'alpha, ou il y a le vaisseau principal, si tu le détruis on met fin à la guerre. Et ce serait magique que ça se passe vraiment comme ça dans la réalité.
Oui.
S'il suffisait de dégommer Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine, ce serait vachement bien, mais évidemment c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ouais.
Malheureusement.
Et donc alors oui, on parlait des réécritures de Body Snatcher. Il y a aussi Invasion, alors de Olivier Hirschbiegel et James McTagg.
Ouais, c'est plus récent, oui, mais bon, c'est une autre lecture, ouais, de
qui est pas super inventive, mais je crois que
avec Daniel Craig, non, ou
alors je peut-être Craig, je sais qu'il y a Nicole Kidman.
Oui, c'est ça, c'est avec Daniel Craig.
Et je me demande si les extraterrestres ne prennent pas le pouvoir quand les humains s'endorment.
Je me souviens, oui, exactement. C'est pareil, c'est le film de c'est rigolo de voir, en fait, ces films-là, toutes ces adaptations de Body Snatchers, en ayant le contexte de l'époque en tête.
Là, c'était 2007, l'invasion.
On est
après
dans
les
la société
attentats,
de contrôle,
ouais.
Voilà, on est après les Patriot Act, après la guerre en Irak, on est dans cette espèce de psychose post-11 septembre. l'ombre déjà un petit peu digérée. Ouais, ouais, c'est toujours intéressant de relire ces films-là.
Ah bah, à la lumière de l'époque, ouais, c'est sûr. Mmh. Et alors, il y a un film dont je veux absolument parler et qui, je pense, est très méconnu. C'est Under the Skin de Jonathan Glazer de 2014 et avec quand même Scarlett Johansson dans le rôle phare, là où on ne l'attend pas forcément parce que.
En croqueuse d'homme.
Alors, oui, en femme fatale, d'accord. Mais le film est quand même vachement indé, ARSA.
Oui, alors en plus, c'est vrai que c'est Scarlett Johansson en pleine période de MCU en plus. Ouais, donc, je pense que le film n'était pas très bien reçu parce qu'on s'attendait à un truc beaucoup plus grand public.
Mais c'est
alors
ça qui était génial. Moi, je sais que je suis tombée par hasard dessus et je suis restée scotchée, hypnotisée par l'image, par le son, la musique. Je trouve que vraiment l'esthétique du film est très travaillée, le côté contemplatif. Alors, je vais peut-être te réexpliquer quand même le pitch rapidement. C'est donc une alien qui arrive sur Terre et qui se glisse en fait dans la peau d'une humaine. Alors, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas si c'est fabriqué ou si elle prend.
Ça a l'air fabriqué parce qu'il y a une scène dans les derniers moments où on se rend compte que le corps n'est pas tout à fait fonctionnel.
Oui, ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, et justement, la scène du début, il y a même une sorte d'œil qui est en construction et puis on l'entend aussi parler comme si elle apprenait à parler avec toutes la diction, les syllabes. Donc c'était assez intéressant. Et donc cette femme qui est dans le corps de Scarlett Johansson, donc femme fatale très attirante, qui va rechercher des victimes, être prédatrice seulement d'hommes. On ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Mais donc elle parcourt, alors c'est en Écosse, hein, je ne sais plus exactement dans quelle ville, mais elle va parcourir les rues à la recherche de types un peu seuls, qui n'auraient pas trop de famille, pas de copines, pour pouvoir justement les enlever. Alors moi, ça me fait rire parce qu'elle parcourt les rues avec sa camionnette blanche.
Oui, donc
ça fait un petit côté Émile Louis.
Ah, complètement, oui.
Non, mais par contre, j'ai appris que justement, l'équipe du tournage était planquée à l'arrière de la camionnette parce que les caméras étaient embarquées pour un peu filmer les gens, les badauds qui passaient. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on adopte le point de vue de l'alien. On est souvent comme si on était dans son regard à scruter les humains comme des bêtes étranges dont elle étudierait un petit peu les comportements.
Je dois me souvenir que il y a ce côté, c'est un des trucs importants du film, c'est que il y a là aussi une volonté de, elle attrape des hommes, voilà, et elle les emmène dans une espèce de liquide en plus, voilà, mais on ne sait pas trop ce qu'ils en font d'ailleurs. Tout ça, je crois qu'ils les retransforment en plus derrière, ils se servent de l'enveloppe corporelle des gens qu'elle a chopé pour en faire d'autres.
Pas vraiment, justement. C'est pas explicite, mais il y a le personnage du motard aussi vient à chaque fois.
Une espèce de contrôleur un petit peu de leur action, de l'action des extraterrestres. C'est un peu étrange. Mais il y a ce côté aussi où c'est très important. Il faut pas qu'elle ait d'émotion parce que sinon elle deviendrait humaine. Enfin voilà, elle doit avoir zéro empathie pour ses victimes. Évidemment, le film ne serait pas intéressant si ça ne devenait pas le cas à un moment dans le film. On en dira.
Ça arrive vraiment de façon douce. Enfin, petit à petit.
Et c'est pour ça que le film peut être un petit peu aride quand tu le découvres, c'est qu'on essaye de te mettre dans la peau d'un personnage qui n'a aucune émotion, et forcément notre nature humaine fait qu'on n'est pas conditionné pour ça, donc c'est un peu...
Et en même temps, et justement, le personnage n'a pas d'émotion, mais la caméra est très souvent fixée sur son visage en gros plan. Ouais, il y a ce paradoxe un peu de visage sans émotion, mais où on est vraiment fixé dessus, et puis sur la vision qu'elle peut adopter, donc, quand elle attire justement les hommes, alors dans une sorte de ruine un peu, de maison étrange, moi je sais pas si je me serais aventurée là-dedans, mais bon, elle est tellement séduisante que les mecs foncent.
Mais c'est ça, ça parle aussi de ça, hein, de toute façon.
Ouais. Hein. Mais oui, certains d'ailleurs n'y croient pas trop, hein, parce qu'elle est limite trop belle pour s'intéresser à eux, et donc c'est un piège en effet. Et tu parlais du liquide, alors ça c'est magnifique, parce qu'on rentre dans une pièce qui est toute noire, le sol par contre est luisant, reflète, et j'ai vu dans les interviews, enfin making of, que justement, donc ils avaient complètement construit cette structure réfléchissante et qu'à un moment il y avait une sorte de plateau amovible qui, sous le poids de l'homme qui avançait, se baissait et il y avait du liquide noir en fait qui montait et qui l'engloutissait. Et alors je trouve ces effets spéciaux mais magnifiques.
Ah oui, c'est une vraie claque visuelle, mais qui est effectivement pas très facile à aborder. Évidemment, quand on s'attend à un film d'extraterrestre, évidemment c'est pas tout à fait
Oui, parce qu'il y a eu d'autres films comme ça, pareil, avec le topos de la femme fatale extraterrestre. Mm-hmm. Or, je ne sais plus les titres, mais j'en vois. Ouais, je vois une actrice dans ma tête.
Qui a été parodiée, du coup, très bien dans une scène célèbre de Mars Attacks. Ouais. C'est pareil, c'est un cliché assez récurrent de servir des traits d'une femme fatale pour attirer les hommes en étant déguisé, enfin en étant un extraterrestre ou un alien. Battlestar Galactica le fait aussi avec là c'est une race de robots, les Cylons, qui aussi s'incarnent sous le corps de Rebecca Romijn, je crois. Oui, c'est un trope assez courant aussi. Mmh. Ouais.
Et donc, juste pour finir un petit peu sur ce film, moi ce qui m'avait frappé aussi par rapport à tous les films qu'on a cités qui sont un peu plus mainstream, c'est que il est quasi muet, ce film. Enfin, il y a très peu de dialogue.
Oui. C'est encore une fois, ça vient avec le fait que le personnage principal n'est censé ressentir aucune émotion et beaucoup passe par la parole.
Dans l'observation. Enfin, c'est assez contemplatif, mais c'est assez angoissant, et notamment grâce à la musique et où on a des cordes là, des violons qui sont un peu en distorsion. Parfois c'est du synthé, parfois c'est de vrais instruments Je trouve que l'utilisation de la musique est particulièrement bien exploitée.
Ce Jonathan Glazer, il a été à la production des films Star Trek récents, c'est-à-dire des films, des versions de J.J. Abrams. Il a été à la production de ces choses-là, donc il est très... c'est un vrai féru de science-fiction. il venait de pas de nulle part quand il a fait celui-là, ouais.
Et justement, je voulais qu'on passe un petit extrait de Under the Skin. Alors, il y a un passage du dialogue avec sa première proie, là, où elle est dans sa camionnette. Alors ce sera version anglaise, hein. Je n'ai pas le film en VF. Et on a surtout ensuite donc la musique, surtout le passage où elle attire dans son antre l'homme, et donc la musique d'ambiance est tellement géniale qu'il faut entendre ça.
No girlfriend, really. Oh, I don't have a girlfriend at all. Very charming. It's better.
Yeah, sorted.
You have a handsome face.
Aye, yeah. Thanks a lot, cheers.
You think I'm pretty?
Aye, you're gorgeous.
Do you?
Aye, definitely.
Good.
Aye, I've got a nice smile as well, by the way.
Do I?
Aye, big thing.
About your smile?
Aye.
You have a nice smile on yourself.
Cheers.
Good.
C'est intéressant, la musique, justement, parce que comment on évoque les populations venues d'une autre planète avec nos instruments, avec notre musique, qui est profondément un acte humain. Pendant longtemps, ça a été le thérémine dans la plupart des films de science-fiction des années 50 pour évoquer la soucoupe volante.
Oui.
parce que personne n'avait entendu un thérémine avant ces trucs-là, en fait. C'était vraiment le...
Ah, c'est clair que c'est le bruit associé aux martiens, là, aux petits hommes verts qui débarquent.
Mais finalement, finalement, pourquoi ? Enfin, c'est une construction, c'est une construction du cinéma. C'est un petit peu comme quand vous passez un film, qui se passe en Égypte ancienne. Je te parle d'un film qui passe en, Égypte ancienne. Tu as tout de suite une musique en tête. Avec les grandes violonades et tout, machin. Il n'y avait pas un violon à l'époque de l'Égypte ancienne. Impossible que la musique... Les gammes orientales qu'on utilise sont des constructions de la musique occidentale. Donc ça reste... c'est assez intéressant de voir comment on construit la musique alien. Je trouvais que Le Cinquième Élément réussissait beaucoup ça.
Eric Serra.
Eric Serra avait fait très fort avec la musique du Cinquième Élément. Déjà avec la scène de l'opéra qui est chantée par une extraterrestre. Pour évoquer ça, il lui fait chanter un air qui est humainement impossible.
Oui, avec un mix de voix...
C'est ça, voilà. Ouais. Il l'a construit, il a reconstruit en fait plusieurs enregistrements qui fait qu'à l'interprétation humaine, c'est totalement impossible, mais on peut imaginer que cet extraterrestre qui a ces espèces de trucs qui lui sortent un petit peu partout est en capacité vocale de le faire, tu vois. Donc ça, c'était intéressant comme approche. Il avait une autre approche qui était pas mal aussi. On sort un petit peu du thème des extraterrestres, mais je trouvais très rigolo que pour évoquer la musique du siècle, c'est le 23e siècle, je crois, Le Cinquième Élément, le moment de la scène de la poursuite en voiture, la scène de la poursuite, il fuit avec son taxi, puis il est poursuivi par la police. La musique qui sert à ce moment-là est une espèce... c'est du rail.
Oui, voilà,
c'est
une
espèce
dire,
de rail, c'est un rail remixé. Et je trouvais ça très rigolo que pour Eric Serra, la musique du 23e siècle soit ce mélange de world, hyper mélangé avec des influences aussi occidentales. C'est mélangé avec un peu de musique électronique. Enfin, je trouvais ça très intéressant, son approche de un million de choses à dire sur la science-fiction par la musique.
Ah, Et là, dans l'extrait de Under the Skin, ce que je trouve fascinant aussi, c'est que c'est à la fois étrange, ça me met mal à l'aise, et c'est une musique un peu séduisante, puisqu'elle était dans la séduction, avec les violons, justement. Et donc, l'ambiguïté de la musique elle-même est très intéressante.
Et, et l'aspect de métamorphose, c'est-à-dire que on l'entend que c'est des violons, mais en fait, on les sent se transformer petit à petit, prendre leur vraie forme, et tu te rends compte que c'est pas des violons, en fait, c'est des synthétiseurs depuis le début. Donc ça évoque aussi cette, cette transition entre cette transition et cette métamorphose de l'alien caché, en fait, sous quelque chose qu'on croyait connaître.
Alors, on a parlé, là, des figures d'extraterrestres qui viennent envahir, qui viennent nous tuer, qui viennent nous exploiter, nous dominer.
Viennent nous exploiter, c'est aussi un des thèmes, c'est vrai.
Ouais, l'exploitation des ressources.
Encore une fois, ça parle d'autre chose.
De l'humanité, c'est ça. De l'histoire de l'humanité. Mais on a quand même quelques figures d'aliens sympas.
Il y en a, bien sûr.
Notamment avec ce cher Spielberg et son E.T. ou ce Rencontre du Troisième Type, même, avant ça.
Oui, alors Spielberg, comme je disais tout à l'heure, c'est rigolo de voir les films d'aliens sous le contexte de l'époque. Et alors, concernant le cinéma de Spielberg, c'est rigolo de voir les films de Spielberg en les mettant en parallèle avec sa vie personnelle. Parce que mon bon Steven Spielberg, il a eu des périodes qui étaient pas ouf dans sa vie. Et ça se traduit assez vite dans son cinéma. Premier Indiana Jones, qui est super lumineux, qui est le film d'aventure que tous les gamins rêveraient de voir. Quand il fait le deuxième, il est en train de se séparer de sa femme et il te met littéralement un temple maudit où il y a un prêtre qui arrache le cœur du personnage principal.
Quelle belle métaphore.
Quelle belle métaphore. Non mais voilà, Spielberg, il a toujours mis énormément de lui-même dans ses films et on sent qu'il a eu des périodes où il était moins optimiste que d'autres. Effectivement, dans les années 70, je veux pas dire de bêtises, ses Rencontres du Troisième Type, et lui, il
77.
Croit, et lui il croit une espèce d'utopie qui est propre à cette époque-là sur les extraterrestres qui seront un événement qui permettra d'unifier le monde un petit peu sous une bannière nouvelle et de nous permettre de communiquer, d'inventer de nouveaux moyens de communication. C'est des utopies qui sont dans les années 70 encore bien présentes. Dans les années 80, il fait plutôt E.T., où là il va plutôt parler de son rapport à l'enfance. Et c'est aussi ça, Spielberg, c'est question de l'enfant qui ne grandit plus ou moins jamais.
Mais tu savais que E.T. à la base, ça devait être un film d'horreur.
Oui, mais
ça, moi, je l'ai appris récemment, que à la base, il avait quand même dans l'idée de faire quelque chose d'effrayant avec un personnage d'extraterrestre.
Je me souviens pas bien ce qui le fait vriller, ce qui lui fait changer d'avis. Tu as peut-être ces éléments-là. En tout cas, E.T., reste cette figure du réfugié aussi qu'il faut protéger des institutions. Enfin, c'est voilà, mais mais on est effectivement face à des extraterrestres plutôt bienveillants, même s'ils oublient E.T. au début du film. J'ai jamais compris pourquoi ils se barraient sans lui, mais ouais. Pourquoi E.T. était un film d'horreur à la base et qu'est-ce qui l'a fait briller?
Enfin, Spielberg apparemment voulait faire la suite de Rencontre du troisième type, mais sur le mode horreur catastrophe. Sauf que c'était un peu trop noir, donc il avait inventé un personnage secondaire d'extraterrestre qui était gentil, qui essayait d'aider la famille.
Ouais,
et
d'accord.
Finalement, il s'est dit que ça c'était plus intéressant
ça,
et que ça avait, que ça n'avait pas été exploité. Et donc, il a laissé tomber l'autre intrigue pour travailler le gentil extraterrestre.
Ouais, puis en plus avec E.T., ça lui permet de travailler des rapports plus plus concret. Rencontre du troisième type était un film très choral, là où E.T. est un film beaucoup plus familial, du coup avec
intimiste,
beaucoup plus intimiste à l'échelle d'une famille, d'une fratrie. Et c'est le cas d'ailleurs aussi pour La Guerre des Mondes, qui pour le coup présente par contre, sans que Spielberg est beaucoup moins optimiste quand il réalise sa Guerre des Mondes, c'est pareil, on est dans les années Bush, on est dans les années post-guerre en Irak. Lui va présenter ses extraterrestres, va choisir de faire un film sur des extraterrestres complètement destructeurs, où là il va plus très bien visiblement Spielberg à ce moment là mais c'est pareil, La Guerre des Mondes de 2005 sert surtout de prétexte à questionner la paternité et questionner le rapport d'hommes très simples qui ne résolvent rien d'ailleurs, parce que c'est ça, dans La Guerre des Mondes c'est complètement l'anti-héros, il ne règle rien, il ne fait que fuir tout le long du film, et il est lui pris dans des événements qui le dépassent. Et c'est toute l'ironie de La Guerre des Mondes, c'est que les extraterrestres sont condamnés dès qu'ils posent le pied sur la Terre, en fait, c'est ce truc là et là le problème se règle entre guillemets tout seul. Donc voilà, il parle d'autre chose.
Mais oui, d'ailleurs il y avait un youtubeur qui avait fait une vidéo là-dessus, et il y a plusieurs films comme ça d'extraterrestres où c'est un petit peu étrange, parce que ce qui va réussir à vaincre entre guillemets les extraterrestres, c'est un élément de la Terre, c'est par exemple l'eau. Et ce que disait le youtubeur en question là, c'est que ils sont un peu bêtes, ça se voit depuis l'univers que la Terre elle est quand même
oui, c'est même l'intérêt principal de la planète.
Voilà, elle est
voilà, là c'est pas tout à fait l'eau, c'est dans Signe surtout, ils sont ils sont allergiques à l'eau, mais où ça les brûle, même ça leur brûle
c'est
carrément
ça.
La peau,
ouais, dans
Signe, mais dans La Guerre des Mondes c'est un petit peu plus subtil, enfin surtout dans le film, c'est un peu plus dans le film de 2005 de Spielberg, parce que pareil, il y en a eu une autre version en 53, mais dans le film de Spielberg c'est plutôt les micro-organismes contenus dans l'eau et qui servent de base aussi aux vivants,
les virus
voilà,
qui les attaquent.
Et ça c'est pas inintéressant, parce que je trouvais ça pas si con que ça, parce que finalement finalement quand les Européens ont débarqué en ce qui deviendra l'Amérique, on a eu relativement les mêmes problèmes, puis on a annihilé la moitié de la population rien que en leur
filant
des rhumes,
transmettant
ce malgré nos connaissances très avancées, on n'a pas pu, il y a quand même eu des expéditions qui se sont aussi traduites par des énormes échecs, parce qu'on n'était pas prêt à affronter le moindre virus de l'autre côté de l'Atlantique. Donc je trouve ça pas si con. Signe, je trouve ça un petit peu plus con. C'est littéralement une planète, c'est littéralement une planète faite d'eau, mais Signe a d'autres défauts. Signe partait d'une excellente intention, qui était de faire un film sur ces fameux crop circles, qui sont une espèce de légende
mystérieux.
Mais ça n'aboutissait pas à quelque chose de forcément génial. Et puis j'ai un petit peu du mal avec le sa nécessité de rapprocher tout ça du divin et de la foi.
J'ai plus de mal aussi avec ça.
C'est un petit peu étrange. Pour revenir à Spielberg, il a pas toujours été, il n'a pas toujours présenté les extraterrestres comme des gentils petits hommes verts.
Oui, bien sûr. Oui.
J'ai parlé de La Guerre des Mondes, qui est effectivement complètement l'inverse, où les aliens sont venus là pour conquérir la planète. Il y a une quatrième œuvre de Spielberg qui place directement ça. C'est pas au cinéma, c'est en série télé. Il y a une mini-série au début des années 2000 qui s'appelait Disparition.
D'accord, je connais pas du tout.
J'en parle parce que elle est relativement peu connue. Moi, je me souviens que c'était culte quand c'est sorti. À l'époque, je l'avais regardé sur Canal+. Disparition, donc c'est intégralement produit et même certains épisodes réalisés par Spielberg. En tout cas, c'est écrit par Spielberg. Et Disparition prend pour base l'incident de Roswell, où là, on va parler par contre des gens qui se font enlever par les extraterrestres. extraterrestre, qui est aussi une...
Ah oui, il y a un des thèmes aussi.
Un des thèmes très forts, ouais. Donc là, c'est vraiment les abductions, quoi. De voilà, il y a toute une série qui se développe sur une dizaine d'épisodes et sur trois générations, en plus, d'acteurs. On va suivre trois familles dont les destins sont liés à ces événements de disparition liés aux extraterrestres. Et c'est vachement intéressant. Je pense que c'est un de ses meilleurs trucs sur les extraterrestres. On sent qu'il a pu pousser un petit peu plus certaines réflexions qu'il le hantait sur les aliens, ouais.
Alors souvent les séries permettent un peu ça de développer
un petit peu plus, ouais.
Et très rapidement d'autres figures d'aliens d'extraterrestres qui seraient gentilles, on a la soupe aux choux qu'on peut quand même citer,
bien sûr, oui,
de Jean Giraud. Après il y a aussi la figure de Superman, en fait, qui
Superman,
est un extraterrestre,
c'est l'extraterrestre,
et qui est le good guy par excellence, sauve. On a Transformers aussi. Alors
oui,
ça,
oui,
moi je n'accroche pas, j'ai essayé, j'en ai vu quelques-uns.
Surtout Transformers, faut pas oublier que c'est les films qui ont fait qui ont rendu les Transformers qui ont fait des Transformers des extraterrestres, je veux dire, c'est les films et c'est les voilà, faut pas oublier que ça reste quand même
des voitures,
ça reste quand même des jouets, en fait.
Ça reste
une adaptation d'une gamme de jouets,
mais moi je ne comprends pas comment ça a pris tant d'ampleur.
Ah oui, oui.
Et franchement, pour avoir vu les Transformers, donc pareil, 2h30 de film là, pour franchement des intrigues,
le premier est super, je trouve le premier super,
oui,
et le premier était surtout une énorme surprise parce que c'était ça la réflexion de base, si on va faire un film sur une gamme de voitures qui se transforment,
oui, là,
en robots.
Oui, là c'était surprenant, la forme des aliens biomécaniques, enfin je sais pas comment on
voilà.
peut dire, mais
là c'était rigolo, c'était très surprenant, et puis on supportait ce côté boum boum là de Michael Bay, ce côté ultra ultra bourrin et un petit peu décérébré, voilà, on te collait du Linkin Park à la fin, il y a tout qui marchait au milieu des années 2000 pour ce truc là à partir du deuxième, je trouve que ça devient assez irregardable. les travelling permanents qui font que chaque personnage doit péter la classe absolument, moi je décrochais pas mal de Transformers, mais je comprends que ça ait su son public, quoi, ouais.
Par contre, un dernier film qu'on a évoqué, je crois, dans la première émission, mais qui me paraît, moi, très intéressant dans la figure positive de l'alien, c'est Premier Contact.
Ah oui, oui.
Où justement, on va aborder la question de la communication avec une nouvelle espèce, et le fait que l'héroïne soit une linguiste, moi j'ai trouvé ça génial.
C'est un film, pour avoir suivi à l'époque son développement, puis c'est un film qui est basé sur une nouvelle qui est très 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 très, très intéressante.
De film de Denis Villeneuve de 2016.
Ouais. Et la nouvelle est de Doug Chiang, que vous pouvez retrouver dans un recueil de nouvelles qui s'appelle La Tour de Babel. Donc tu vois, on reste dans ces questions de langage commun.
Ouais.
Et lui est très... ce film-là est effectivement un des plus intéressants et un des plus aboutis sur la question du premier contact, c'est qu'à te dire, puisque effectivement on imagine que l'équipe type, il y a des agences qui ont eu pour mission d'élaborer des process comme ça de premier contact éventuel avec des extraterrestres. Le SETI le fait.
Comment communiquer, partir de rien en fait pour établir un langage,
voilà,
en fait.
Parce que au-delà de l'aspect science-fictionnel, ça permet aussi d'élaborer des processus pour des contacts avec d'autres civilisations aussi qu'on pourrait avoir avec des civilisations qui sont... Il y a encore des civilisations qui sont isolées dans le monde et avec lesquelles il y a eu très peu
de contact justement avec...
Voilà. Donc ça reste des expériences de pensée toujours très intéressantes, mais il y a effectivement des process comme ça de prise de contact avec une civilisation extraterrestre le jour où ça devrait arriver. Et ce film-là l'élabore très très bien. Et puis il y a une espèce de truc là sur le...
Bah, le travail sur, j'allais dire,
le langage. Alors du coup...
Mais le langage dessiné là, des extraterrestres, quelqu'un parlait de taches de café parce que cercle avec...
Et c'est un cercle, c'est ça l'intéressant, c'est que c'est un cercle, c'est-à-dire que c'est un mode de communication, c'est un mode de langage non linéaire, c'est-à-dire que nous on fait une phrase, il y a un début, il y a une fin, et la pensée, notre pensée fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que fonctionne avec un temps qui va du présent vers le futur. Et Premier Contact va aussi chercher dans ces trucs-là en disant que finalement notre manière de communiquer, notre langage conditionne aussi notre manière de penser et doit amener en fait à à un personnage qui doit acquérir le même mode de pensée que les extraterrestres. Il est vraiment super, ce film. Il est esthétiquement magnifique.
Oui, je trouve aussi. Le vaisseau, là, qui est immense.
Avec une espèce aussi. De coquille, ouais. Coquille géante. Tous les plans. Bah, Villeneuve est un génie du zénithal, en plus. Donc, de ces espèces de plans immenses où finalement, t'as l'impression qu'il n'y a rien dedans, mais qui sont extrêmement signifiants. Enfin, tout est...
La création du look aussi des aliens, pour le coup, les hectapodes, pareil, assez original, un peu du jamais vu. Bon, même si ça reste... Enfin, on ne sait pas trop, c'est un peu indéfinissable, mais on dirait des grands animaux, mais pas forcément. Ils restent dans une brume permanente, en plus.
En fait, tout dans le film cherche à nous faire comprendre que pour qu'on puisse communiquer avec ces créatures-là, on est obligé de penser autrement. Il y a un moment, je me souviens qu'il y a un dialogue où ils disent, mais s'ils nous parlent, où est leur bouche, tu vois, enfin, il me semble que ça doit être dans ce film-là. Ouais. Et il y a un personnage qui fait comprendre qu'il faut pas chercher la bouche, en fait. Enfin, faut arrêter de les regarder avec un visage, enfin, avec une vision humaine, en fait. Il faut aller au-delà de notre mode de pensée.
C'est anthropocentrique à chaque fois, c'est que par rapport à nous, nos codes, nos...
C'est ça. C'est de ça que parle le film et ça va jusqu'à la réflexion autour de notre manière humaine de considérer le temps qui est potentiellement autre chez...
Alors, je trouvais la réflexion très intéressante, mais alors le twist, alors on va pas spoiler si certains veulent le voir, parce que c'est quand même assez
récent.
C'est
moins un twist qu'un... ça reste un twist.
Ça reste un twist quand même, un truc un peu inattendu. Moi, je sais pas pourquoi ça me... Je trouve pas que ça apporte grand-chose. Je trouvais que ça suffisait à soi-même, le lien, le travail sur la communication, et là, d'apporter un petit truc comme ça...
C'est tout ce qui... Ouais. C'est jusqu'au boutiste, en fait. C'est-à-dire que leur manière d'envisager leur écriture se détache de toute notion de temps. Donc, ils pensent le temps comme un tout un petit peu cyclique.
Sur lequel ils ont prise, de la même façon que nous.
Donc, à un moment donné, le film est obligé aussi d'aller au bout de ce truc-là, de cette histoire-là, de montrer que seulement le cinéma peut présenter un truc comme ça. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est que c'est un pur produit cinématographique. Parce qu'on peut jouer avec le temps. Nolan le fait beaucoup. Nolan ne fait d'ailleurs plus que ça en ce moment.
Mais d'ailleurs, il y avait Age of Tomorrow aussi, non ? Qui jouait sur ça, de la perception du temps.
Ça, c'est pareil. C'est un film que je trouve n'a pas eu les mérites qui. Enfin, le succès qu'il aurait dû avoir. Mais effectivement, Age of Tomorrow. Là encore, clairement, les extraterrestres sont une excuse pour jouer une version action de Un jour sans fin. C'est ça, hein. C'est-à-dire que.
Il y a une boucle temporelle.
Qui est causée par les extraterrestres, sauf que c'est Tom Cruise qui récupère le pouvoir. Enfin, c'est un film qui est franchement génial. Quoi.
Oui, j'avais bien aimé. Je l'ai plus trop en tête là, c'est plus frais dans ma mémoire, mais.
Le pitch est très con, mais la réalisation est vraiment très bonne, quoi. Donc, Edge of Tomorrow, qui pareil est une traduction. Edge of Tomorrow, c'est le nom français.
D'accord.
Le film s'appelle Kill Repeat. C'est adapté, c'est plus ou moins adapté d'un manga en plus. Donc,
oui, c'est vrai.
Mais du coup, voilà, le nom original doit être Kill Repeat quelque chose. Retraduit pour le marché français en Edge of Tomorrow.
Ouais.
Pourquoi ? C'est le Very Bad Trip.
Oui, j'y pensais.
Non, mais voilà, pourquoi on retraduit Very Bad Trip
The Hangover.
The Hangover, voilà.
Bon, et puis alors, quand même, une dernière petite partie sur le fait qu'on a, on en a déjà un petit peu parlé finalement, hein, mais on a une inversion des rôles parfois, et c'est l'humanité qui devient complètement agressive envers les extraterrestres, qui les opprime. Par exemple, dans Alien Nation de Graham Baker en 89, c'était ça, c'est une société un peu mixte, hein, avec des aliens immigrés en fait, hein, qui ont du mal à trouver du boulot, font face au racisme, on n'accepte pas leur culture, il n'y a pas de mélange entre humains et aliens. Et puis bien sûr, District 9, dont on parlait aussi dans la première mission de Neil Blomkamp, 2009. Finalement, ça commence à dater.
Ça commence à dater,
mais il est génial, ce film. Pareil.
Il est génial. J'adhère moins à la deuxième partie qu'à la première, où effectivement, tout le parallèle est intéressant, entre ça en Afrique du Sud. Enfin, de toute façon, il est sud-africain, Neil Blomkamp.
C'est l'apartheid, en fait.
C'est l'apartheid avec des extraterrestres, quoi.
Les aliens sont dans des ghettos complètement insalubres. Il y a vraiment une...
Je le trouvais... d'autant plus intéressant pour ce côté, contrairement à beaucoup d'autres films sur des aliens qui seraient simplement en visite, enfin qu'on découvrirait et qui permettraient à l'humanité de s'en sortir grandie, ce qui est le cas de Star Trek. Star Trek, c'est de savoir que l'humanité n'est plus seule dans l'univers, permet aux hommes de s'unir.
Oui, puis on va vers une certaine notion de progrès, de droit universel.
Puis une espèce d'utopie, hein, clairement. Oui. Star Trek est une utopie, et le point de départ de Star Trek est une utopie. Là, de présenter finalement les extraterrestres, enfin l'arrivée des extraterrestres, ne rendant pas les choses spécialement meilleures, et qu'on finirait probablement par reproduire des erreurs qu'on a déjà reproduites par le passé, donc en l'occurrence une forme d'apartheid, c'est aussi très intéressant. C'est pas du tout optimiste, je te cache pas,
Bien vu. Et le côté justement pas américain, parce que je crois qu'il y a la production, elle est mélangée.
Complètement. Oui.
C'est rafraîchissant, moi je trouve. On voit qu'il n'y a pas un angle blockbuster habituel.
Ça,
ouais. Et bon, finalement, pour conclure, alors, malgré cette humanité qui est souvent critiquée à travers certains films comme ça, quand même, l'humanité n'est pas à 100% représentée comme mauvaise. C'est pas à chaque fois l'antagonisme à 100%.
Non, bien sûr.
Mais il y a toujours un groupe d'humains pour relever le niveau, pour venir sauver, comme dans Avatar finalement.
Oui. C'est encore une fois, c'est ça le truc. C'est que ça permet aussi
l'identification du spectateur
et l'identification, et surtout c'est encore une fois le propre de la science-fiction de nous permettre de poser certaines questions existentielles sous le prisme de quelque chose dont on pousse le curseur au maximum, en l'occurrence les extraterrestres ou l'avancée dans le futur très lointain. Il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui sont un petit peu plus optimistes, qui espèrent que l'humanité grandira et s'accomplira beaucoup plus à la rencontre des extraterrestres.
Ce sera le mot de la fin. Bien développé le thème. Merci beaucoup, Maxime Munier, d'être venu répondre à mes questions et débattre de ce thème. Vous pouvez réécouter cette émission le mardi à 17h, le jeudi à 20h et le samedi à 17h, ou en podcast sur le site de diversitéfm.fr.